Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Noël, c'est Jésus qui, comme un migrant, part du ciel et vient dans le pays des hommes. Des mots au micro de Radio Orient du nonce apostolique, le représentant du pape en France. Monseigneur Celestino Migliore sera notre invité en cette veille de Noël. Le Maroc met fin au dispositif qui visait à rapatrier ses ressortissants bloqués à l'étranger. Le pays prolonge également l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier. Les élections sénatoriales le 5 février prochain en Algérie. Un scrutin pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement algérien. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. En Tunisie, le chef de l'État affirme qu'il faut clarifier la situation du pays pour que chaque citoyen ait le droit de vivre dans la dignité et dans la liberté. Des propos à un moment où une grève de la faim a été entamée par des opposants pour exiger la reprise du processus démocratique. Invité de Pluriel à 19h et 23h sera Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon. À l'occasion de Noël, il évoquera ce qui rassemble chrétiens et musulmans, notamment à travers les figures de Jésus et Marie. Un entretien exceptionnel à la veille de Noël avec le nonce apostolique, le représentant du pape en France, Monseigneur Celestino Migliore, a accordé un entretien à Radio Orient. Il revient sur la fraternité interreligieuse, la place de Jésus dans l'islam, mais aussi sur la situation des chrétiens d'Orient. Celestino Migliore, qui présidera ce vendredi soir à 23h l'office de Noël du Cirque Grus à Paris, sous le chapiteau à l'orée du Bois de Boulogne. Entretien.
Le Cirque Grus est un environnement de joie, d'émerveillement, de tendresse. Et ce sont les sentiments et les engagements que Noël inspire. Les artistes du cirque suscitent tout de suite la fraternité. Et ce soir-là, ils nous aideront à ouvrir notre cœur pour faire des gestes concrets de partage afin de redonner un peu de soulagement et de joie à tant de chrétiens d'Orient qui se trouvent en situation très précaire.
Et cela va se traduire, vous le dites, concrètement, car la quête sera reversée à l'association pour le Liban Phoenix.
Voilà. Je sais que la quête sera destinée en faveur des chrétiens d'Orient pour des projets humanitaires.
Quel regard portez-vous sur la situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui ?
C'est une situation précaire dans laquelle des cas de persécution ou d'asphyxie sociale, c'est-à-dire d'une vie sociale rendue misérable en raison de la non-reconnaissance du droit de citoyenneté. Et bon, ces éléments s'accompagnent de problèmes internes de gouvernement et de rapports humains dans les mêmes communautés chrétiennes, et aussi à l'utilisation un peu générale de la religion comme instrument politique et à la revendication d'une identité rigide par toutes les parties.
Nous évoquions le soutien apporté au Liban, le soutien de l'Église catholique apporté au Liban. Comment cela se caractérise? Il est particulièrement important.
Oui, les nombreux appels du pape François, ses rencontres avec les chefs d'État et de gouvernement, l'œuvre de la diplomatie du Saint-Siège contribuent et ont déjà contribué à parvenir à une confiance internationale pour une solution politique et à pousser les puissances à entreprendre des actions concrètes. Au Liban, l'Église gère environ 330 écoles de différents niveaux, une vingtaine d'hôpitaux et différents dispensaires, d'ailleurs ouverts à tous, sans distinction. Et les tenir ouverts et fonctionnels en ces temps de forte crise économique est déjà un miracle de solidarité. Les aides financières venant de nombreuses églises, en particulier de la France, ont augmenté. Et au niveau diocésain et paroissial, au Liban, sont nées de nombreuses initiatives d'assistance aux plus nécessiteux. L'Église était en première ligne l'année dernière pour reconstruire Beyrouth après l'explosion du port. Et certainement, la solution doit être politique. Mais en attendant, on continue à promouvoir le dialogue et à agir sur le terrain.
Aujourd'hui, Monseigneur, quel message souhaitez-vous adresser à l'ensemble des composantes de la population et notamment aux musulmans à l'occasion de la fête chrétienne de Noël ?
Noël, c'est Jésus qui, comme un migrant, part du ciel et vient dans le pays des hommes, assume nos conditions de vie, notre culture. Mais il nous montre aussi sa culture, celle du ciel, qui est une culture de communion, de concorde et de paix entre les personnes divines, Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint. Il nous revient de savoir accueillir et faire nôtre cette participation qui nous conduit vers le haut.
Jésus qui occupe une place importante, comme Marie d'ailleurs aussi, dans la religion musulmane.
Oui, Jésus est considéré comme un prophète. Le Coran se réfère à Jésus avec la formule « le messager de Dieu » ou « la parole de Dieu ». C'est un bon point de rencontre entre musulmans et chrétiens.
Et cela permet de renforcer la fraternité interreligieuse aujourd'hui en France ?
Oui, bien sûr. Il existe un climat de collaboration, de fraternité au niveau officiel, de responsables des communautés religieuses ici en France. Mais c'est important, cela. Dans la mesure où collaboration et fraternité sont comprises et voulues à la base, c'est surtout à la base que l'on doit œuvrer. Dans différentes parties de la France, il existe des initiatives de rencontres. Je pense par exemple à Marseille, où j'ai visité il n'y a pas longtemps. Des initiatives de rencontres, de débats, mais surtout de collaboration pour affronter les problèmes communs aux personnes de toute religion, et les problèmes des quartiers, de la ville, de la région. Et ce sont ces rencontres, ces collaborations qui créent un tissu social, culturel, religieux, nouveau et tout à fait constructif.
Monseigneur Celestino Migliore, vous représentez le pape en France en tant que nonce apostolique. Quels vœux souhaitez-vous adresser pour 2022 ?
Eh bien, je dirais un vœu de résilience et de fraternité pour dépasser la peur, le défaitisme et l'individualisme à tous les niveaux.
Le nonce apostolique, le représentant du pape en France, Monseigneur Celestino Migliore. Le Maroc a mis fin au dispositif visant à rapatrier ses ressortissants bloqués à l'étranger. Le pays a aussi prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier prochain. Des mesures face à la propagation rapide dans le monde du nouveau variant Omicron. Le 13 décembre, les autorités marocaines avaient permis, à titre exceptionnel, aux Marocains retenus à l'étranger de retourner dans leur pays via le Portugal, la Turquie et les Émirats Arabes Unis. Seuls sont désormais autorisés des vols spéciaux de rapatriement au départ du Maroc, notamment vers la France. Ils sont soumis au cas par cas à l'approbation des autorités marocaines. Le gouvernement marocain avait plutôt déjà interdit toutes les célébrations du Nouvel An et rétabli un couvre-feu nocturne. Cette mise en garde du président tunisien, Kais Saied, craint des conspirations ourdies contre la Tunisie allant jusqu'à l'assassinat. Le chef de l'État a aussi affirmé qu'il fallait clarifier la situation du pays pour que chaque citoyen et le droit de vivre dans la dignité et dans la liberté. Des propos à un moment où une grève de la faim a été entamée par des opposants pour exiger la reprise du processus démocratique et la condamnation du régime individuel. Sur le front social en Tunisie, l'Union Générale Tunisienne du Travail annonce une grève des agents de la Poste les 19 et 20 janvier prochains. Cette grève intervient suite à la non-application de plusieurs accords signés, en plus du manque des ressources humaines et des équipements de travail. La centrale syndicale déplore aussi l'absence de révision des primes. Des élections sénatoriales à venir en Algérie. Le scrutin pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement algérien, aura lieu le 5 février prochain. La Haute Assemblée est composée de 144 membres, dont 96 sont élus au suffrage indirect parmi les élus au niveau des assemblées populaires des wilayas pour un mandat de 6 ans. Les précisions de Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Le Conseil de la Nation, c'est la chambre haute du Parlement, parce qu'en Algérie, c'est un système bicaméral. Il y a le Conseil de la Nation, ce qu'on appelle le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement, et il y a également l'Assemblée populaire nationale, la PN, qui est la chambre basse du Parlement. Les lois qui sont votées par la chambre basse doivent nécessairement passer par le Conseil de la Nation pour être adoptées et après envoyées donc au Conseil constitutionnel. Maintenant, il y a une cour constitutionnelle pour vérification et adoption finale. Donc c'est une deuxième chambre qui est nécessaire pour le passage des lois. C'est une chambre, donc la chambre haute, qui est à moitié désignée, à moitié élue par le suffrage indirect dans les assemblées populaires nationales et également dans les assemblées communales et les assemblées de wilaya. Donc c'est une chambre qui est importante puisque aucune loi ne peut passer sans l'adoption, et l'adoption de cette chambre et le Conseil de la Nation est également important dans la mesure où parfois il peut demander à un ministre, à un chef du gouvernement, lui poser des questions, ce qu'on appelle les questions orales, les questions directes, pour les répondre. Il a aussi la prérogative de bloquer des lois pour une deuxième lecture si cette loi n'arrive pas à obtenir le consensus au sein de ce Conseil. Donc il a un rôle important dans le système parlementaire algérien.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Ce drame au Bangladesh, plusieurs dizaines de personnes sont mortes aujourd'hui dans l'incendie d'un ferry surchargé. Le ferry de 3 étages a pris feu au milieu d'une rivière. C'est arrivé à 250 km au sud de la capitale, Dakar. En France, l'Élysée a annoncé ce vendredi qu'Emmanuel Macron tiendra un conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 lundi prochain. Cela face à la flambée des contaminations. Ce sera juste avant le Conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Le gouvernement qui maintient le délai pour avoir une dose de rappel du vaccin à 4 mois, même si la Haute Autorité de Santé recommande de réduire ce délai à 3 mois. Ce délai de 4 mois entre en vigueur ce vendredi au lieu du 3 janvier prochain. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon, ancien président du service des relations avec l'islam au sein de l'Église. À l'occasion de Noël, il évoque ce qui rassemble chrétiens et musulmans, notamment à travers les figures de Jésus et Marie. Le père Vincent Feroldi.
Je constate, moi, auprès de mes amis musulmans et des amis musulmanes, qu'effectivement, Jésus et Marie tiennent une grande place. Alors, d'une part, si on évoque Marie, on voit que tel qu'est présenté Marie, Myriam dans le Coran, avec ce que nous en disons, les chrétiens et tout particulièrement les catholiques, il y a donc de très très grandes proximités. Et c'est pour ça que depuis plus d'une dizaine d'années, si on doit un petit peu aux différentes communautés croyantes du Liban, nos amis libanais, qui ont montré et qui ont décidé, puisque maintenant il y a même une journée nationale libanaise islamo-chrétienne au moment de l'annonciation de la fête de Marie, que voilà, que Marie est finalement pour nous un facteur de rapprochement. Et je me réjouis toujours quand des musulmans me parlent de Marie ou qu'on m'invite, des amis musulmans, à dire « mais voilà, qui est Marie pour toi ?» Et puis pour ce qui est de Jésus, c'est vrai que je me rends compte que pour mes amis musulmans, Jésus est un très grand prophète et donc il a une place privilégiée dans le Coran et même dans la foi musulmane. Et je me souviens toujours de cette soirée, c'était là aussi au Liban que j'évoquais il y a quelques instants, quand un ami musulman me raconte que tous les jours, il prend aussi le temps de lire un passage de l'Évangile pour mieux connaître ce Jésus qui lui est proche par la tradition musulmane.
Alors vous qui connaissez bien l'islam, quel est le message commun de la religion musulmane et du christianisme? Vincent Feroldi, qu'est-ce qui réunit ces deux religions?
Alors, ce qui réunit en premier, c'est cette relation au Dieu unique. Alors, le musulman évoquera avant tout le tout miséricordieux, et nous, on prendra plutôt les mots, le tout amour, un Dieu amour. Mais je dirais, c'est cette foi en Dieu, créateur des mondes, et qui a confié aux hommes le soin de gérer l'univers, la terre, et de répandre le bien. Alors, je sais que du côté musulman, voilà, souvent il y a l'expression que l'homme est finalement le lieutenant de Dieu. Alors nous, parce qu'on s'inspire aussi des mots de Jésus, on va dire, nous sommes invités à être les serviteurs et les servantes du bien commun des uns et des autres. Voilà, donc je dirais, il y a cet amour de Dieu et du Dieu unique qui nous est vraiment commun. Et puis, à partir de là, c'est le sens de la vie humaine. Et même si on n'emploiera pas toujours les mêmes mots, parce que finalement chacun est dans sa culture, on voit bien que tant le chrétien que le musulman est invité par Dieu, par Allah, à faire des bonnes œuvres. Nous, on va dire à pratiquer la charité. Vous allez évoquer fortement, il ne faut pas oublier la zakat. Il faut être tout attentionné. Il y a aussi là on évoque Noël, l'importance de la famille, et je pense aussi le lien vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants. Voilà, là il y a vraiment des points qui nous sont communs. Et puis moi je dirais dans les valeurs, c'est celle d'être juste envers les autres.
Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon, ancien président du service des relations avec l'islam au sein de l'Église, il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, une émission préparée, présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité, très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et très bonne fête de Noël à vous.